Merci au groupe Louange de nous avoir conduits dans cette première partie de culte. Jean-Pierre nous a déjà fait réfléchir à cette nouvelle année qui commence, ses défis. Et c'est vrai que pour ceux qui sont rythmés par le rythme scolaire, c'est un moment de l'année assez particulier hein, où tout redémarre. Nouveau rythme, nouvelle organisation à la maison, nouvelle classe pour les enfants. Et c'est souvent un air de nouveauté qui règne dans la maison. Mais il y a quelque chose qui n'a pas fondamentalement changé pendant l'été, c'est l'atmosphère un peu pesante de ces derniers mois, pour ne pas dire de ces dernières années dans lesquelles nous sommes baignés. Il y a eu le Covid, le début d'un conflit en Europe, une crise énergétique maintenant, l'inflation, le tout sur fond de crise climatique. Tout cela a amené le Sunday Times à inventer un nouveau terme, la perma-crise, la crise permanente, deux crises en crise, comme s'il n'y avait plus de pause entre toutes ces crises. Comment ne pas sombrer devant si peu de perspectives? Alors pour nous encourager dans ces prochains mois, nous commençons une nouvelle série, « Ceux qui comptent sur l'Éternel ». Une série qui va nous entraîner dans le livre d'Ésaïe, un livre pas facile, hein, prophète de l'Ancien Testament, c'est souvent un peu plus complexe pour nous de le comprendre. Et ceux qui comptent sur l'Éternel, c'est justement un verset bien connu de ce livre, Ésaïe 40, verset 31. Ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme des aigles. Ils courent sans s'épuiser. Ils marchent sans se fatiguer. Voilà une parole dont nous avons bien besoin en début d'année, n'est-ce pas? Et c'est cette promesse du prophète Ésaïe qui nous servira un peu de fil conducteur tout au long de cette série, parce que, rassurez-vous, on ne va pas prendre chapitre par chapitre, hein, il y en a 66, donc on y passerait quelques années, mais on va prendre quelques textes clés que nous allons traverser avec justement ce mot d'ordre un peu pour cet automne, compter sur l'Éternel. Alors, on ne va pas le prendre chapitre par chapitre, par contre, et j'y reviendrai dans le mois de septembre, vous aurez le défi, vous, de le lire chapitre par chapitre dans votre culte personnel, comme un petit peu, on l'a déjà fait par le passé, on aura un défi commun de lecture avec une petite aide, un livre que je présenterai au fur et à mesure du mois de septembre. Ce n'est pas pour tout de suite, ça commencera fin septembre, donc pour l'instant, on démarre pas à pas. Et on veut justement eh bien, tout de suite se plonger dans ce prophète avec ce premier verset, prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoz, sur Juda et Jérusalem, au temps de d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda. Bon, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose tout ça, mais c'est juste un petit verset qui nous permet quelque peu de situer la prophétie d'Ésaïe. Déjà, on se rend compte qu'elle se situe sous quatre règnes de rois successifs, donc déjà ça a duré un certain temps, mais c'est surtout ce qui est important d'avoir en tête au moment de commencer cette série, c'est qu'elle se situe à un tournant pour le royaume de Juda, à un moment de temps justement troublé après des années prospères, un moment de crise, après un temps où on avait l'impression que toutes ces crises, toutes ces choses qui nous déstabilisent étaient désormais derrière nous. Un contexte un peu comme celui dans lequel nous sommes actuellement, hein, après des années d'impression peut-être de prospérité, de paix, les choses ont changé. Le règne du roi Ozias, là, le premier cité, c'est justement le règne qui a été marqué par cette prospérité, cette stabilité politique. Mais à la fin de son règne, il était clair que les choses allaient bouger. Le contexte international était en train de s'assombrir. Un nouveau dirigeant, Tiglath-Pileser, était parvenu au pouvoir en Assyrie. Un dirigeant belliqueux, il était clair que son objectif, c'était de s'emparer de tous les territoires à portée de main pour lui. Et le petit royaume de Juda, au milieu de tout ça, ne semblait pas faire le poids. Et à l'intérieur du pays, non plus, la situation n'était pas brillante. Oui, il y avait une période de prospérité, mais la richesse, comme souvent dans ces cas, n'était pas équitablement répartie. elle concernait surtout les puissants qui se souciaient très peu des plus démunis. Et c'est un peu ce constat que l'on retrouve au début de notre premier chapitre que je vous invite à lire. Alors on va lire ce premier chapitre pas à pas, on fera plusieurs pauses parce qu'il y a de nombreux versets, donc ça nous permettra de mieux assimiler ce que nous lisons. Et je vous invite donc à commencer notre lecture au chapitre 1. Nous allons lire les versets 2 à 9. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont révoltés contre moi. Le bœuf connaît son possesseur et l'âne la crèche de son maître. Mais Israël ne connaît rien. Mon peuple n'a point d'intelligence. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus. Ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont retirés en arrière. Quel châtiment nouveau vous infligez quand vous multipliez vos révoltes. La tête entière est malade et tout le cœur est souffrant. De la plante du pied jusqu'à la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Votre pays est dévasté, vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos campagnes sous vos yeux. Ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres, comme une ville épargnée. Si l'Éternel des armées ne nous avait pas conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorre. Alors j'ai bien conscience que si notre série s'intitule « Ceux qui comptent sur l'Éternel », le moins qu'on puisse dire, c'est que ce premier tableau nous donne plutôt l'impression de ceux qui ont abandonné l'Éternel. Et ce sera d'ailleurs le cas la plupart du temps dans les lectures. Hein. Vous êtes un peu habitués à ces prophéties de l'Ancien Testament. Mais ce matin, on va quand même essayer de trouver des encouragements dans ces passages. Et notre fil conducteur, qui nous donnera, j'espère, aussi des clés pour mieux appréhender les livres de la prophétie biblique de l'Ancien Testament va nous amener à suivre un petit peu ce qu'on peut donner comme caractéristique d'une prophétie. C'est vrai que quand on dit prophétie, on a l'impression tout de suite qu'on nous oriente à regarder vers l'avenir. Prophétie, vision, on s'attend à avoir des choses révélées sur ce qui va se passer. Mais la prophétie biblique s'inscrit d'abord et avant tout dans le présent. Elle part du constat de ce qui ne va pas. Pour cela, en fait, il suffit juste un peu d'ouvrir les yeux et d'accepter de regarder autour de soi. Et c'est comme ça que l'Éternel, au début de notre passage, prend à témoin, vous l'avez entendu, le ciel et la terre, pour qu'il soit bien clair que tout le monde peut voir ce qui est décrit là. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la situation est alarmante. Alors que le peuple d'Israël, de Juda, était le peuple choisi à qui Dieu avait révélé sa loi pour qu'il puisse discerner ce qui est bien de ce qui est mal, les voilà assis au banc des accusés, chargés sous les fautes qui lui sont reprochées. Malheur à la nation pécheresse, au peuple chargé d'iniquité, à la race des méchants, aux enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel, ils ont méprisé le Saint d'Israël, ils se sont retirés en arrière. Ils avaient reçu les bénédictions de Dieu qui les avait élevés comme ses enfants, mais ils refusent de laisser Dieu être Dieu dans leur vie. Et ils ont fini par se révolter contre lui. Pour Ésaïe, cela, c'est être encore plus stupide que l'âne et le bœuf réunis. Et je crois que malheureusement, on peut légitimement faire un rapprochement avec notre Occident actuel. Nous avons fait des enseignements de la Bible la base morale de nos sociétés. C'est l'histoire christianisme dans la société occidentale qui a fait ça. Le christianisme a été pendant des siècles le révélateur pour estimer ce qui est bien et ce qui est mal. Et quelle est la pensée dominante aujourd'hui ? Bien que l'homme est capable, par lui-même, de définir ce qui est bien et ce qui est mal en se passant de Dieu. Ou alors, plus subtilement, ce que j'entends maintenant plus récemment, en fait, qu'il ne nous revient pas de définir ce qui est bien ou ce qui est mal. La proposition, c'est de vivre dans un pays où les lois sont là pour définir ce qui est permis ou pas, en s'affranchissant de la morale. Vaste écran de fumée. Le problème reste le même. Comment vous faites pour définir des lois qui disent ce qui est permis ou pas sans vous intéresser aux critères qui va les permettre de le définir ? Ça va être quoi ? Les libertés individuelles ? Elles se heurtent souvent à l'intérêt collectif. L'intérêt suprême de la nation ? On sait que c'est la porte ouverte aux abus et aux oppressions les plus terribles. Et ce que nous venons de vivre ces deux dernières années, je pense, a été une parfaite démonstration de l'impasse de ce dans lequel nous mène ce déni. Impossible de vivre dans un état de droit avec des lois qui s'affranchissent de la morale, qui ne se poseraient pas la question de qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Et la question demeure donc, qui peut les définir ? En France, on a un comité national d'éthique et on compte sur lui pour finalement nous aider à pas uniquement laisser la prospérité économique ou la science nous guider. Mais quand on écoute Ésaïe, lui, il jette un pavé dans la mare. Celui qui peut définir ça, c'est certainement pas l'homme. L'homme en est incapable. Il lui faut la révélation de celui qui prend soin de lui. Et l'image d'Ésaïe ne manque pas de piquant. Regardez aux ânes et aux bœufs. Eux, ils savent. Ils ont la sagesse de reconnaître leur maître. C'est comme si le peuple de Dieu ne voyait pas que les malheurs qui s'abattaient sur lui étaient les conséquences de sa rébellion. La situation est à ce point dramatique que Dieu se présente comme un parent qui ne sait plus quelle punition inventer pour que son enfant se rende enfin compte de la mauvaise voie dans laquelle il s'engage. Israël est frappé de la tête à la plante des pieds, mais il ne semble pas voir d'où ça vient. Ésaïe fait notamment allusion à des invasions ennemies qui sont quelque part l'arme dans les mains de Dieu pour que le peuple se rende compte. Vous avez ça au verset 7. Pas facile de situer les faits historiquement de ce verset, parce que les invasions les plus dramatiques ont eu lieu sous le dernier règne des rois mentionnés tout à l'heure, Ézéchias. Mais ce qu'on lit au verset 1 semble plutôt ressembler à la situation du deuxième roi, le roi Ahaz. Finalement, ce n'est pas très important. Ce qu'il nous faut garder en tête, c'est ce qu'Ésaïe veut pointer. D'une part, l'Éternel aimerait penser soigner les plaies de son peuple, mais celui-ci ne le lui permet pas. Et d'autre part, c'est comme si l'Éternel s'était retenu de détruire totalement son peuple. L'image est assez terrible. Le peuple de Dieu est comparé à Sodome et à Gomorre, deux villes symboles de la rébellion ultime contre Dieu. Mais contrairement à ces deux villes qui ont été totalement détruites par l'Éternel, c'est comme si la main de Dieu s'était arrêtée in extremis cette fois-ci. C'est l'image de la cabane vieillotte qui est devenue Jérusalem, prête à tomber en ruine, mais pour laquelle il reste malgré tout un espoir. En fait, ce que Dieu veut que son peuple comprenne, c'est la folie qu'il y a à abandonner l'Éternel. Nous vivons dans ce monde où l'abandon de l'Éternel est criant. Et je crois que la succession des crises auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure en est une expression. L'épée humaine repose toujours sur un compromis fragile qui, un jour ou l'autre, ne manquera pas de s'effondrer. La prospérité économique promet la sécurité, mais elle provoque en fait toujours un sentiment d'injustice, d'inégalité. Et quand une solution à toutes ces crises est trouvée, il y a toujours ceux qui s'enrichissent sur le dos des autres. Ceux qui refusent de compter sur l'Éternel n'ont aucun espoir. Ils ne voient qu'un enchaînement de crises, une crise après l'autre, la permacrise. Alors quel est notre rôle face à cela ? Bien sûr, l'Église est appelée à être une société à contre-courant de l'engrenage du monde, et notamment un peu comme au temps d'Ésaïe, en faisant entendre sa voix. Je crois qu'en France, au XXIe siècle, on peut être reconnaissant. Il me semble qu'un organisme comme le CNEF, aujourd'hui, nous permet de faire entendre une voix à contre-courant, différente, dans la société rebelle dans laquelle nous vivons. Ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord avec ce que dit le CNEF. Hein. Ce n'est pas ça l'idée du propos, mais c'est de dire qu'on a une représentation parlante dans une société, en tout cas plus parlante que quand chaque clocher fait entendre sa propre voix. Est-ce que cette voix sera pour autant suivie des faits ? Il n'y a pas plus de raison qu'elle soit suivie des faits qu'au temps d'Ésaïe. Car face à l'abandon de Dieu, ce dont a besoin un peuple rebelle, ce n'est pas d'une nouvelle loi, ce n'est pas d'un comportement plus juste, plus social. Ce dont a besoin un peuple rebelle, ce sont de nouveaux yeux, un nouveau cœur. Et le prophète Ésaïe ne s'y trompe pas. Je vous invite à écouter la suite à partir du verset 10. Écoutez la parole de l'Éternel, chef de Sodome. Prête l'oreille à la loi de notre Dieu, peuple de Gomorrhe. Qu'ai-je à faire de la multitude de vos sacrifices, dit l'Éternel. Je suis rassasié des holocaustes de béliers et de la graisse des veaux. Je ne prends point plaisir au sang des taureaux, des brebis et des boucs. Quand vous venez vous présenter devant moi, qui vous demande de souiller mes parvis ? Cessez d'apporter de vaines offrandes, j'ai en horreur l'encens, les nouvelles lunes, les sabbats et les assemblées. Je ne puis voir le crime s'associer aux solennités. Aux solennités, oui. Mon âme fait vos nouvelles lunes, mon âme et vos nouvelles lunes et vos fêtes. Elles me sont à charge, je suis las de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de devant mes yeux la méchanceté de vos actions, cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien, recherchez la justice. Protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin. Défendez la veuve. Après le premier constat donc de l'état du peuple, les paroles du prophète vont devenir totalement inattendues. Nous avons sans doute là parmi les paroles les plus étranges de tout l'Ancien Testament. Ça commence au verset 11. « Que m'importe la multitude de vos sacrifices ?» Bon, à Moutier, on ne se sent peut-être pas trop concerné. Ça fait quelques siècles qu'on a arrêté d'apporter des sacrifices de bouc ou de bélier ici. Par contre, on est sans doute plus interpellé par les versets 13 à 15. « Cessez d'apporter de vaines offrandes. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. » Vous imaginez les anciens de l'Église se lever au moment où l'offrande va circuler dans les rangs. Arrêtez ! Il y a un tel décalage entre ce que dit la Bible et ce que l'on vit qu'il vaut mieux ne pas le faire. Ou alors, arrêtons ! Fermons les réunions de prière. La chapelle du mardi matin, la réunion du troisième mardi du mois, le groupe d'intercession du dimanche, arrêtons tout ça ! Quelle mascarade ! C'est un peu ce qui se passe ici, non ? Ce n'est pas le pasteur, c'est le prophète Ésaïe. Ce n'est pas une église, c'est le peuple de l'Ancienne Alliance, mais en substance, c'est le propos. Arrêtez de prier. Pourquoi de tels avertissements ? En quoi donner son offrande, venir à une réunion de prière ? sacrifier son temps pour tenir le stand de l'Église au Forum des associations, en quoi cela pourrait soudainement offenser Dieu? Moi, j'aurais l'impression qu'inciter à prier quelqu'un qui se rebelle contre Dieu, c'est gagné. Ce serait positif. Le problème dénoncé ici, c'est celui de la religiosité, de la religion formelle. L'arbre qui cache la forêt. La religion formelle met en avant nos pratiques, nos habitudes, nos performances religieuses. Elle nous rend très satisfaits de nous-mêmes. Elle nous empêche de voir le vrai problème, celui du cœur. Et c'est le deuxième aspect d'une prophétie. Après le constat, le diagnostic. Le constat, on peut tous le faire. La voiture est en panne. Le diagnostic, ça c'est le job du garagiste. Alors que nous serions peut-être tentés d'être satisfaits de nous-mêmes, Dieu nous dit, c'est pas votre étiquette évangélique qui vous permet de vivre justement dans cette société. Isaïe nous invite à regarder à nous-mêmes. Que notre étiquette religieuse ne soit pas l'arbre qui cache la forêt. Qu'elle ne nous empêche pas de faire le diagnostic. On est toujours dans cette tension, la foi véritable et la religiosité. Comment faire la différence ? Alors on pourrait peut-être le dire ainsi, la foi véritable, celle que nous visons hein, ici, dans cette église, est avant tout transformatrice. Cela signifie que bien sûr, elle renonce au mal, on l'entend dans ce texte, aux mains pleines de sang, qu'elle cherche à faire le bien, agir en faveur de son prochain, prendre soin du faible, de la veuve et de l'orphelin. Selon un principe cher à l'apôtre Pierre, la foi sans les œuvres n'est pas la foi. Mais un autre piège nous tend, se tend devant nous. Limiter la foi véritable à de bonnes œuvres, c'est retomber dans le formalisme qui est dénoncé ici. On ne s'appuie plus alors sur des performances religieuses comme notre fidélité aux réunions d'église, mais on s'appuie sur des performances morales, éthiques, notre dévouement pour le prochain. La foi, la véritable foi, c'est une vraie ligne de crête. Hein. D'un côté, ce piège donc de la vie spirituelle basée sur la religiosité, où les réunions d'église s'ajoutent aux réunions d'église pour les plus anciens, où les événements stimulants s'ajoutent aux événements stimulants pour les plus jeunes. Cela, ça conduit généralement à une piété de forme qui fait de nous des champions de la culture évangélique, mais qui oublie que le projet de Dieu, c'est la transformation du cœur. Je ne dis pas que ça ne permet pas, je reviendrai après. Mais le problème, c'est quand on tombe dans ce formalisme. Mais l'autre travers, c'est celui qui a tendance justement à se dire « Tout ça, c'est pas ça la vraie foi. » Le rejet, l'oubli, la négligence des repères spirituels. Aucun moment prévu dans notre vie pour la respiration, pour le lieu où Dieu va nous parler. Aucun lieu où je laisse la parole façonner ma vie. Que ce soit dans des temps personnels, mais aussi des temps avec mes frères et sœurs, à travers lesquels Dieu parle aussi. En fait, il n'est possible d'être transformé positivement par le bien que nous faisons sans que ce soit Dieu qui le fasse, et non pas notre bien à nous. Seuls ceux qui comptent sur l'Éternel voient leur vie se transformer. Oui, ce que Dieu veut, c'est un cœur résolu, consacré dans toutes ses voies, mais qui n'oublie pas de venir puiser à la source, en Dieu. Je crois que c'est un avertissement solennel, hein, au moment où nous organisons notre agenda de l'année. En même temps que nous avons planifié toutes ces choses, que ce soit dans notre projet personnel, professionnel, familial, est-ce que nous avons intentionnellement placé des moments de ressourcement où nous allons laisser Dieu faire son œuvre en nous. des moments de culte personnel, des cœurs à cœur avec Dieu, mais aussi collectifs. Peut-être les groupes de maison, peut-être un groupe de croissance, peut-être ma participation à la réunion de prière. Vous voyez, ces formalismes-là n'est pas le problème. J'en ai besoin si je les vis dans la perspective de laisser Dieu transformer ma vie. Ceux qui comptent sur l'Éternel voient Dieu transformer leur vie. Et c'est cela que nous voulons viser ici, à Farmoutier. La racine des dérives du peuple de Dieu à l'époque d'Ésaïe, c'est donc ce cœur partagé, inconstant. C'est pour cela que Dieu leur demande d'arrêter de prier. Ça n'a plus aucun sens. C'est finalement un peu le même avertissement que l'on retrouve dans l'épître de Jacques, dans un autre contexte. Celui qui doute, qui cesse de compter sur l'Éternel, est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. On pourrait dire, arrête de prier, ça ne sert à rien en fait si tu le fais comme ça. Car c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Ainsi donc, face à toutes nos inconstances, le remède n'est pas premièrement de redoubler d'activités religieuses. Le remède, Ésaïe nous le donne à partir du verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Nous arrivons à la dernière caractéristique de notre texte concernant la prophétie, celle qui nous tourne justement vers le futur, la solution que Dieu va apporter. Vous vous rappelez le constat, le diagnostic et maintenant donc la solution. Trois caractéristiques de la prophétie biblique. Tout au long de ce texte, on ne peut pas le nier, la situation est désastreuse. Mais c'est un refrain des prophètes. Dieu n'en a pas fini avec son peuple. Au beau milieu de ces tableaux sombres, il faut réussir à déceler ces petites pépites, ces versets ci et là, semés dans les prophéties. Et ici, on l'a au verset 18. « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. » Après avoir plaidé devant les cieux et la terre, l'Éternel argumente cette fois-ci avec les accusés. Il les prend à part. La plaidoirie a été sans ménagement jusque-là. Les péchés sont décrits comme étant écarlates, rouges vifs. La sanction semble inévitable. Mais le divin juge fait une proposition stupéfiante. Absolution totale. Scandaleux, hein ? Scandaleux. Le peuple qui cherchait à manipuler Dieu pour obtenir de lui ce qu'il voulait reçoit finalement de Dieu tout cela gratuitement. C'est fou. Imaginez le truc. Quelqu'un qui cherche à vous manipuler pour obtenir de vous quelque chose, peut-être un peu de chantage affectif pour obtenir de vous un service ou un don généreux. Et vous n'êtes pas dupe. Et vous voyez le poteau rose. Mais au lieu de vous braquer et de vous fermer, vous dites « Tu peux arrêter ton numéro. Ce que tu me demandes, je vais t'en donner 100 fois plus. » C'est ce que Dieu est en train de faire avec son peuple. Un truc fou, la grâce, la grâce. Ça semble fou, mais peut-être pas tant que ça. Parce que je crois que seul un cœur bien disposé peut vraiment être au bénéfice de la grâce de Dieu. Un cœur rebelle sera irrémédiablement à côté. Sa vision de Dieu trop étriquée le conduira toujours à abuser de la grâce, à passer à côté de l'offre merveilleuse que Dieu veut lui offrir, à continuer à vouloir manipuler Dieu pour obtenir de lui ce qu'il peut donner. D'ailleurs, le Seigneur fait grâce, mais il ne doit pas être pris à la légère. Le verset 20 donne une condition, que le peuple cesse de se rebeller, parce que sinon ce sera la destruction inévitable. Voilà en quelque sorte la solution proposée par Dieu à son peuple, la repentance, une nouvelle obéissance. C'est finalement le salut avant l'heure, le choix devant lequel Dieu nous place aujourd'hui encore à travers la croix de Jésus-Christ. Un choix, bien sûr, pour affirmer que nous comptons sur l'Éternel, mais un choix qui est appelé à se confirmer tout au long de notre vie chrétienne. Celui qui compte sur l'Éternel s'attend à ce que la solution vienne de Dieu. Il est temps de conclure. Voici notre mot d'ordre pour commencer cette année. Être des hommes et des femmes qui comptent sur l'Éternel. Et d'après ce premier chapitre d'Ésaïe, voilà trois choses que font ceux qui comptent sur l'Éternel. Ils écoutent le constat de ce qui ne va pas. Ils suivent le diagnostic de ce qui ne se voit pas. Ils attendent de Dieu la solution. Ils attendent que ce soit Dieu qui apporte la solution. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, pourrait m'empêcher de compter sur l'Éternel? Peut-être une décision que je n'ai pas encore prise, clairement dans ma vie, de dire « je veux compter sur toi ». Peut-être un cœur partagé entre ce que Dieu dit et ce que mon cœur aurait envie de suivre. Peut-être une vision étriquée de l'action de Dieu face à telle ou telle préoccupation. Peut-être un attachement trop grand à la religiosité. Peut-être trop peu de temps consacré à l'écoute de Dieu. Est-ce qu'il y a une décision que je devrais prendre ce matin pour confirmer mon désir de compter sur l'Éternel? Je vous invite à un temps de silence pour méditer cela dans votre propre contexte et pour laisser Dieu vous convaincre lui-même de cette décision à prendre. Seigneur, nous avons en tête cette promesse du prophète Ésaïe, « Ceux qui comptent sur l'Éternel voient leur force qui se renouvelle. » Seigneur, nous venons devant toi en ce début d'année pour que, justement, tu sois cette ancre, ce rocher, cette voile dans nos vies, pour que, justement, ce soit toi qui conduise nos pas. Aide-nous à ne pas compter sur nos propres forces. Aide-nous à ne pas négliger ces temps d'écoute devant toi. Aide-nous à ne pas compter non plus sur parfois ce gargarisme religieux ou ce côté d'être propre juste à nos yeux. Seigneur, nous voulons nous laisser sonder par tes voix, par ta parole. Nous voulons entendre ce matin encore ton appel. Seigneur, nous voulons te suivre sur les voies que tu mets devant nous. Je te prie que ce matin, nous puissions tous repartir d'ici avec cette perspective que tu vas être avec nous, chaque jour de cette semaine, pour nous laisser conduire, nous laisser nous réjouir, nous laisser reprendre, nous laisser instruire. En ton nom, Seigneur. Amen.